Bonjour à tous. Eh ben, ça fait plaisir de se retrouver ici, même si c'est pas toujours facile de voir ben, les hauts et les bas d'une communauté, mais on sait ce que c'est, on est passé nous aussi par là et on a besoin de se serrer les coudes et puis de se remettre entre les mains du Dieu de l'espérance. Alors ce matin, ben, ça va reprendre un petit peu des choses qui ont été dites hier, peut-être certains n'étaient pas là. En fait, j'ai pas trop consulté Jean-François pour ce qu'il allait faire, moi j'ai fait mon truc, et puis en fait, il semblerait qu'on a un peu été conduits dans la même direction. En fait, moi, ce que je vais partager, c'est le train de la vie. Le train de la vie. Pas le train de vie, le train de la vie. J'aime beaucoup le texte de l'écrivain et philosophe français Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront. Tiens, en parlant de démission, j'avais pas pensé à ça. Même éventuellement l'amour de notre vie. Et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir, d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers. Fin de citation. Le texte continue, mais je m'arrête là. Et donc, voilà, on est tous dans ce train de la vie et je me dis, oui, c'est vrai, le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers. Et j'ai réfléchi sur comment réussir ce voyage et comment garder de bonnes relations. Ce n'est pas évident. Et donc, j'ai discerné quatre clés qui pourront y contribuer. Alors, la première clé, c'est ne pas nier la réalité. Certains nient tout bonnement les faits. Alors, je vais vous expliquer. Nous sommes outrés quand nous apprenons que des individus ou même des gouvernements nient le génocide que leur propre peuple a perpétré. Ils réécrivent l'histoire à leur sauce pour préserver l'honneur de leur nation et ne pas avoir à restituer les richesses spoliées. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. Je pense par exemple au génocide de mon propre peuple, les Arméniens, en 1915, qui n'est toujours pas reconnu par la nation responsable. Je note que cette façon tordue de relire le passé se retrouve aussi chez nombre de nos contemporains. À entendre certains d'entre eux, ils n'ont jamais rien fait de mal. Le péché, je ne connais pas. Ils vivent dans un auto-mensonge permanent. Donc, ils nient les faits, ils nient qu'ils peuvent avoir dévié, ils nient qu'ils ont pu nous offenser, ils nient toute responsabilité. Et d'autres, par contre, connaissent les faits dans nos prochains. Ils peuvent reconnaître qu'ils ont fait ceci ou cela, qui n'est pas juste, mais ils nient toute culpabilité. Ils s'en vantent même. Certains persistent et signent, tel cet homme politique français qui se vantait du plaisir éprouvé lors de relations sexuelles avec de jeunes garçons durant un voyage en Asie. Quel culot il a, il reconnaît qu'il a fait des choses horribles et puis il dit je sens aucune culpabilité. Il faut dire que la philosophie du monde ambiant qui pipe les dés ne nous aide pas parce que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. On anesthésie les consciences, on bâillonne Jiminy Cricket. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est que Jiminy Cricket, c'était une sauterelle qui était sur les épaules de... Pinocchio, hein. Et alors, là, il était comme sa conscience, en fait, hein. Et alors, des fois, on l'écoute, des fois, on ne l'écoute pas. En fait, voilà, il n'y a pas de honte à avoir, il ne faut surtout pas se sentir coupable. On se vante même d'être parfaitement imparfait. Et les mots péché, culpabilité, honte et repentance sont devenus tabous, du moins dans notre société occidentale. Ce négationnisme entraînera des conséquences tragiques pour les offenseurs, ceux qui font le mal. Parce que s'ils ne reconnaissent pas leur faute, ils ne pourront jamais recevoir le pardon de Dieu. Dans 1 Jean 1, versets 8 et 9, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et la deuxième chose, comme conséquence tragique pour les offenseurs, c'est que le pardon éventuel de la personne offensée, en fait, il ne recevra pas le pardon ni de Dieu, ni de la personne qui l'a offensé. C'est ça que je voulais dire. Et en même temps, il ne vivra pas la liberté qu'il résulte quand on reçoit le pardon d'une personne offensée. On en a parlé hier pour ceux qui étaient là. Donc c'est vraiment tragique pour ces personnes. Et ce négationnisme entraînera des conséquences aussi sur les personnes offensées elles-mêmes. Parce que elles vont souffrir de se laisser, d'être laissées pour compte, d'avoir des blessures qui ne sont pas reconnues, des blessures qui auront du mal à se cicatriser parce qu'elles n'ont pas été validées et regrettées par leur auteur. Et pour en parler par exemple au niveau d'une nation, le peuple arménien, il souffre toujours de ce que ce massacre, ce génocide n'a pas été reconnu par la nation même qui l'a perpétré. Et on pleure toujours. Je suis arménienne, c'est pour ça que je vous parle de ça. On pleure toujours nos morts. C'est comme si, voilà, on n'arrive pas à être guéri. Donc en fait, la première clé, c'est de ne pas nier la réalité, de reconnaître qu'on est pécheur, de reconnaître qu'on a pu faire du mal. Et en même temps, voilà, de ne pas nier la chose, parce que si on ne la nie pas, eh bien, on pourra peut-être progresser vers le pardon, demander pardon et recevoir le pardon. Donc la deuxième clé, c'est de savoir reconnaître ses torts. Laissons-nous sonder par l'Esprit Saint et donnons-lui le droit de nous révéler ce qui est tordu et sombre en nous. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Il faut que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur nous-mêmes. Et puis, répandons notre cœur devant Dieu comme le psalmiste dans le psaume 32, versets 3 et 4. « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. À longueur de jour, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Un péché non confessé est comparé à un poids. Il nous fatigue, il nous empêche de marcher aisément et dans la joie. Notre vie est plombée. Et le psaume 51 est un exemple de prière de confession que nous pouvons faire nôtre. Et on peut y lire multiples bienfaits. On se sent purifié, il y a la joie, notre esprit est bien disposé, on ressent la présence de Dieu, on se sent affermi, on se sent libéré, etc. Il faudrait relire ce psaume pour réaliser les bienfaits de la confession. Et donc, quand on se répand devant Dieu, on reconnaît ses torts, eh bien, ensuite, eh bien, on peut aussi aller voir la personne à qui on a fait du mal. On a pu lui faire du mal consciemment ou inconsciemment, par action, par omission. Hein, on aurait dû faire, on n'a pas fait. On l'a fait, on n'aurait pas dû. Et puis, essayons de nous réconcilier avec elle dans la mesure où celle-ci est prête à nous offrir le pardon. Tant de souffrances, de divisions, de divorces pourraient être évitées si nous savions reconnaître nos torts sans tarder. Reconnaître rapidement ses torts, demander rapidement pardon, donner son pardon rapidement sans tarder. Et c'est dont nous parle Jésus dans Matthieu 5 quand il parle de la réconciliation. Il nous invite à nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Donc, première clé, eh bien, c'était ne pas nier les faits. Hein. Deuxième clé, c'est savoir reconnaître ses torts pour pouvoir demander pardon, recevoir le pardon. Troisième clé, alors, quand nos convictions divergent, savoir gérer la situation avec sagesse. Un problème vieux comme le monde. Pour vivre des relations paisibles et harmonieuses dans le train de la vie, il va falloir aussi gérer les divergences d'opinion et de conviction. En société, comme dans les familles ou même dans l'église, on se crêpe le chignon concernant un vaccin, une guerre, des élections, des convictions théologiques, alimentaires, que sais-je encore. Tout est sujet à discorde. Donc l'objectif à atteindre, c'est quand même l'harmonie. Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, et nous voyons que même l'Église naissante a été troublée par des clans, des divergences. C'est pourquoi l'Épître aux Philippiens, nous voyons dans l'Épître aux Philippiens deux sœurs en Christ, qui sont des servantes fidèles de l'Évangile, mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Dans Philippiens 4, versets 2 et 3, je recommande à Évodie et Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés à cause de l'Évangile. C'est quand même triste. Deux sœurs qui aiment le Seigneur et qui ont tout donné pour le servir et qui n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, il y a comme un travail à faire, quoi. Et puis même Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, il les supplie presque quand il écrit « Je vous adresse » donc 1 Corinthiens 1:10. Une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Et rappelons-nous la prière de Jésus pour les siens dans Jean 17, 22, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. C'est vrai que l'unité, c'est un message pour le monde. Et si on veut toucher notre monde, évangéliser le monde, il faut qu'il voie quelque chose d'intéressant dans l'Église de Jésus-Christ quand même. Donc, il faut savoir gérer avec sagesse nos divergences. Alors, chacun a ses convictions quand même. Alors, il faut moduler. Et dans un autre passage, l'apôtre Paul se montre un peu plus réaliste quand il dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres ». En Philippiens 2:2, il dit « Tendez, c'est pas facile, mais essayez quand même. » Parce que l'accord parfait n'est pas facile à atteindre. Soyons réalistes. Dans les Actes des Apôtres, Nous avons l'exemple de Chrétien de Césarée qui cherche à empêcher Paul de se rendre à Jérusalem. Donc, acte 21-14, comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté. À un moment, il faut laisser couler, quoi. On ne peut pas le convaincre, il reste convaincu qu'il doit aller à Jérusalem. Eh bien, voilà, nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Donc, on tend à vivre en harmonie. Et dans cet effort-là, parfois, on va dire, lui, il pense qu'il doit faire ça, il le fait, laissons-le faire, c'est entre lui et Dieu, c'est sa conviction. Et puis voilà, on lâche prise. Le célèbre revivaliste George Whitefield avait de sérieuses divergences doctrinales avec son collaborateur John Wesley. Alors vous avez deux évangélistes, des gens de réveil, qui collaborent, mais qui ne croient pas tous les deux la même chose au niveau de la doctrine. Alors pourtant, voilà ce qu'il écrit. « Après tout, ceux qui veulent vivre en paix doivent s'accorder sur le fait que l'on puisse être en désaccord à bien des égards avec ses compagnons d'œuvre et qu'il ne faut pas laisser de petites choses les séparer ou les désunir. » Bien sûr, sur les choses essentielles, il faut qu'on soit d'accord. Mais des fois, ce sont des petites choses qui nous séparent et c'est tellement triste. Et la quatrième clé, c'est avoir le courage de se séparer quand la gravité de la situation l'exige. Même le grand apôtre Paul a rencontré des situations de dissension avec son compagnon de voyage Barnabas. Donc, acte 15, 37 à 39 a été évoqué aujourd'hui. Leur désaccord fut si profond, ces deux collaborateurs, il est dit qu'ils se séparèrent. Mais dans ce cas-là, il s'agissait d'une séparation provisoire. Ils se sont retrouvés plus tard. Mais voilà, les désaccords, ils n'ont pas réussi à s'unir dans un projet. Et à un moment donné, ils se sont séparés. Et parfois, peut-être, c'est ce qu'il faut faire. Parce que malheureusement, des fois, tous les efforts entrepris pour vivre en paix avec... c'est sur un autre domaine. Avec certains prochains, c'est un échec. On a beau essayer... On a beau demander pardon une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois. Et puis alors, toujours, on retombe dans des mauvais travers. C'est comme si la relation endommagée semble irrécupérable. On n'arrive pas, c'est impossible de marcher d'un même pas comme nous le demande Philippiens 3,16. Et c'est là que le « autant possible » de Romains 12,18 nous ouvre une voie de sortie quand il est dit « autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Sous-entendu, des fois, vous aurez fait tout ce que vous avez pu, et ce n'est pas possible. Certaines personnes refusent, même inconsciemment, de faire la paix. Malgré maintes manifestations concrètes de bienveillance à leur égard, elles continuent de se comporter en « ennemis », entre guillemets. Elles cherchent à vous faire du mal, à vous discréditer, à vous humilier. Et à un moment donné, ce n'est pas un péché que de prendre de la distance pour ne plus être exposé et pour nous protéger. Cette décision pourra susciter de l'incompréhension dans notre entourage et même nous isoler. Mais la paix de notre âme est à ce prix. Il faudra résister au désir de vengeance, et de cela Jean-François va parler plus tard, de la vengeance. Il va falloir faire un vrai lâcher-prise et laisser Dieu s'occuper de ce qui nous dépasse et ne pas se sentir coupable d'être accablé d'une fausse culpabilité. Et là, je vais vous dire un petit témoignage. Bien sûr, dans ma vie, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont offensé. Et que moi-même j'ai dû offenser, mais où on a cherché à se réconcilier, mais c'est comme si une personne en particulier, c'est comme si en fait l'accord parfait, ça n'arrivait pas. On avait beau essayer, je me sentais, à chaque fois que je voyais cette personne, elle s'en rendait pas compte, mais elle m'offensait, mais vraiment grave. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais malade, et j'étais mal, Et c'est vrai que des fois, j'avais même des idées de vengeance et de savoir, oui, je, qu'est-ce que, enfin, j'étais, et à chaque fois devant Dieu, je me sentais sale et je me sentais coupable. Parce que d'avoir des idées de vengeance, en fait, on sent, l'autre, il pêche contre nous, et nous, on réagit mal, donc c'est nous, après, qui sommes coupables. L'autre, il se sent pas coupable, mais c'est nous qui nous sentons coupables. Et à la fin, ben, après des années, ça a duré, jusqu'à que, une fois de plus, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit, par ce verset du psaume 45, 11 et 12, « Entends ma fille et vois, écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille, car le roi est épris de ta beauté. » C'est comme s'il me disait maintenant, laisse tomber tous ces gens que tu, qui sont peut-être membres de ta famille, mais laisse prendre la distance. Moi, je t'aime, tu es ma joie, je suis épris de toi, tu me souris, c'est le principal. Et puis voilà. Et ça a été une libération. À ce moment-là, j'ai dit, bon ben, je vais prendre du recul, je ne vais plus me mettre en situation où je vais me sentir mal. Et ça a beaucoup amélioré. J'ai pu retrouver une certaine paix intérieure. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on se sépare comme ça, bon, ça doit être comme un divorce, par exemple, il y a des échecs. Et ça peut être une déception sentimentale. On a tous vécu des choses comme ça et on a besoin après de... Ben, c'est comme un deuil qu'il va falloir gérer après. Et la bonne nouvelle, bien, c'est que l'espérance, c'est une chose qui demeure. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et merci Seigneur pour l'espérance, parce que nous avons l'espérance de rebondir et de recommencer quelque chose. Et donc, là-dessus, je voudrais dire que ben, même si vous avez vécu une trahison, un échec, une déception sentimentale, un échec professionnel, vous aviez peut-être investi beaucoup en termes de temps, de sentiments, d'argent, de travail, et le résultat n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Et donc vous avez décidé, donc pour vous protéger, de prendre bah, de la distance, etc. Et certains, bien malheureusement aussi, ont baissé les bras, ils ont renoncé. Et donc des fois, eh bien, ils n'osent plus essayer et croire en l'avenir. C'est ça le problème. Et ils ont perdu espoir. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Dans ces cas-là, on peut avoir des séparations, des choses qui nous ont fait beaucoup de mal. Et on a eu besoin de le faire, peut-être, pour notre survie. Mais il faut garder l'espérance et ne pas tomber dans le désespoir. Et là, je vais vous lire encore de la littérature française. Je suis un peu littéraire. Et je vais vous lire un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne croire plus en l'amour juste parce que un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Et pour nous aussi, il y aura un nouveau départ. Pour ce que vous vivez actuellement, il y aura un nouveau départ. Il ne faut pas tomber dans... Bien sûr, peut-être qu'il y a un temps de deuil, mais après, il faut espérer à nouveau. Parce que Dieu peut tout à tout instant. Il peut changer la donne de votre vie. Il peut vous amener les amis dont vous avez besoin, la compagne que vous attendez ou le compagnon, le travail, le ministère que vous n'espériez plus. Il est le Dieu de l'espérance. dans Romains 15, 13, voici ce qu'il est écrit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais prier pour terminer. Seigneur, alors que j'ai embarqué dans le train de la vie, mon désir profond est de vivre l'harmonie avec tous les passagers qui, un jour ou l'autre, s'assoient près de moi pour faire un bout de route. Quand j'arriverai à destination, je voudrais partir le cœur serein, sachant que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que mes relations soient paisibles. Aide-moi par ton esprit à reconnaître mes erreurs, à ne pas chercher à nier ma culpabilité lorsqu'elle est engagée. Que je puisse en toute humilité solliciter le pardon quand cela est nécessaire. Et puis pardonner moi-même. Et si je dois passer par des moments de séparation douloureuse, bien je te remercie parce que tu es le Dieu de l'espérance et que tu m'aideras à rebondir. Amen.
Merci beaucoup, Cathy. Moi, je voudrais pour ce matin juste partager quelque chose. Quand je me préparais pour le séminaire de ce week-end, en fait, et je voulais prier par rapport à ce week-end, je demandais au Seigneur un texte sur lequel je puisse appuyer ma prière, quelque chose que la Bible me dit, voilà ton Dieu, celui que tu pries, voilà comment il est, et tu sais parce qu'il dit qu'il est comme ça, tu vas t'appuyer sur cette révélation pour ta prière. Et quand je priais comme ça, le Seigneur m'a conduit, j'ai partagé hier, c'est au psaume 147. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait pas, ce psaume 147, juste par hasard, mais que dans ce psaume, Dieu donnait aussi une voie d'espérance. En ce moment, dans mon culte personnel, en fait, je médite beaucoup, je suis dans les livres des prophètes, donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et quand on lit le livre des prophètes, en fait, on voit avec grande tristesse la tempête qui s'est abattue sur Jérusalem, sur Juda, sur Israël, à cause de tout ce qui s'est passé, toute cette destruction, toute cette nation qui est en souffrance, ces déportations, un peuple exilé, un peuple brisé, un temple qui est détruit, saccagé, un sol fertile qui devient infertile. Et là, à Babylone, le peuple se demande, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a un avenir pour Jérusalem? Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut? Ou est-ce que c'est la fin? Et dans ce psaume, je lis, il est dit dans la version Parole de vie, chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. C'est agréable de chanter sa louange. Avant d'écouter la parole ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chanté. On a chanté la louange de Dieu. Et c'est une bonne chose de le faire en tout temps, en tout temps, en toutes circonstances. Et il est dit, verset 2, le Seigneur reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il dit, c'est une bonne chose de chanter les louanges du Seigneur. Et il est dit que notre Dieu, celui qu'on est venu adorer ce matin, il est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Jérusalem a été totalement détruite. Mais notre Dieu est un Dieu d'espoir. Humainement parlant, c'était impossible. Mais tout est possible à Dieu. Tu peux avoir été détruit dans ta personne. Tu peux avoir été détruit dans ton couple. Tu peux avoir été détruit dans ton ministère. Tu peux avoir détruit dans ce que tu as construit, tout ce qui s'est... L'impression que tout s'écroule. Et là, le diable dit, c'est fini. Démissionne. Mais mon Dieu, celui que j'ai prié en venant ici, il dit, ce Dieu qui est à Aubergenville, c'est le même qui est dans ce psaume-là, il est capable de reconstruire Jérusalem. Et après, il est dit, il rassemble les exilés d'Israël. On le lit dans l'histoire que ceux qui étaient un peuple uni ont été dispersés. Quatre coins d'eux. Et Dieu est capable, humainement parlant, on ne sait pas comment, il ne faut pas essayer de le fabriquer, mais Dieu peut le faire. Il peut rassembler les exilés d'Israël. Le Seigneur peut réunir ce qui a été séparé. Pas toujours, il ne le fait pas toujours, mais il est capable de le faire. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus prier, adorer. C'est ce Dieu de l'espérance. Il est dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Quand les choses se cassent la figure, quand on ne se comprend pas, quand on se dit des mots qu'on n'aurait jamais dû se dire, quand on s'entendait, qu'on s'entre-déchire, les cœurs sont brisés de part et d'autre. Mais Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Si ton cœur a été brisé, ce Dieu que nous sommes venus adorer, il a un Dieu qui peut guérir. Qui peut guérir. Il peut le faire. Il est capable de le faire. Il l'a fait pour son peuple Jérusalem. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous sommes aussi peuple de Dieu par la foi en Christ. Circoncis de cœur. Et il est dit qu'il soigne leurs blessures. Une blessure non soignée s'infecte et peut amener la gangrène, peut amener l'amputation. Mais le Dieu que nous servons, que nous adorons ce matin, il est celui qui soigne les blessures. Et je veux le dire, je veux le proclamer, je veux le confesser. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu peux reconstruire ce que le péché et ce que le diable a détruit. Tu peux rassembler ce que le péché a dispersé. Tu peux guérir les cœurs qui ont été brisés, offensés. Tu peux soigner les blessures les plus profondes. Et ce psaume continue, dit, il compte toutes les étoiles. Tu te rends compte? Si tu as la chance de lever, aujourd'hui on ne lève plus trop les yeux vers le ciel, mais les myriades d'étoiles, et tu comptes les étoiles du ciel, le Seigneur, il est dit, tu appelles chacune d'entre elles par ton nom. Notre Seigneur est grand, il est puissant. Quand tu regardes le ciel, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur relève les malheureux, mais il abaisse jusqu'à terre les gens mauvais. Remerciez le Seigneur en chantant, jouez pour notre Dieu sur la cithare, car c'est lui qui ouvre le ciel et le couvre de nuages. Il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne de la nourriture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui le réclame. Ce n'est pas la force du cheval qui lui plaît, ni les exploits du coureur. Mais les gens qui le respectent, qui comptent sur son amour, voilà ce qui lui plaisent. Seigneur, on ne vient pas comme des héros, des stars. On ne vient pas sur le critère de nos performances. Seigneur, quand on vient devant toi, comme pour ce rendez-vous de ce week-end, ce n'est pas la force du cheval qui te plaît. Ce n'est pas les exploits des orateurs, ce n'est pas les exploits d'une... Non. Mais ce qui plaît au Seigneur, c'est ceux qui le respectent et ceux qui comptent sur son amour. Et nous comptons sur son amour. Nous n'avons pas épuisé l'amour de Dieu pour ta vie personnelle, pour notre vie communautaire. Et il est dit, Jérusalem, c'est Jérusalem malmenée, Jérusalem qui a tant pleuré, chante la gloire du Seigneur. Ville de Sion, chante la louange de ton Dieu. Il a rendu solides les serrures de tes portes. L'ennemi a pu enfoncer les portes de Jérusalem. Les serrures ont cédé. mais le Seigneur peut rendre solides les serrures de tes portes. Si l'ennemi a pu pénétrer, détruire, saccager, le Seigneur peut venir rebâtir tes portes, renforcer tes serrures. Il est dit, à l'intérieur de tes murs, il a fait du bien à tes habitants. À l'intérieur des murs, c'était terrible pour Jérusalem au moment de la tempête. Terrible. Les gens s'entre-déchiraient, les mères allaient jusqu'à manger leurs enfants pour subsister. Horrible, quelque chose contre nature qu'on ne pourrait jamais imaginer. Comment une telle méchanceté peut-elle avoir lieu dans la tempête? Mais il est dit qu'à l'intérieur de tes murs, il fera du bien à tes habitants. Seigneur, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de ton église, tu peux faire du bien. Tu peux faire du bien à ceux qui sont là, à ceux qui restent. Il est dit, il protège tes frontières et tu peux vivre dans la paix. Vous savez ce que c'est quand on est envahi, quand ton pays est envahi par des armées étrangères, on franchit les frontières, on pense à ce qui s'est passé quand la Russie a franchi les frontières de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est en train de vivre? Mais il est dit que le Seigneur, même s'il permet parfois, il l'a permis pour Jérusalem, que ses frontières soient envahies. Le Seigneur promet, parce qu'il est le Dieu de l'espérance, qu'il protégera tes frontières et que tu pourras vivre à nouveau dans la paix. C'est ce Dieu que nous sommes venus adorer ce matin. Il te donne les meilleures récoltes, le Seigneur envoie ses ordres sur la terre, sa parole court aussitôt. Alors il fait tomber la neige comme le coton au moment de la récolte. Il répand le givre comme de la cendre. Il fait pleuvoir des cailloux de glace devant ce froid qui peut résister. Le Seigneur donne un ordre et aussitôt il fonde. Quand il envoie le vent, les ruisseaux coulent. Le Tout-Puissant s'est levé. Le Tout-Puissant est intervenu pour secourir Jérusalem et lui redonner un avenir fait d'espérance. Quand le Seigneur donne un ordre, qui peut lui résister? Et il est dit, il découvre ses paroles à son peuple, ses ordres et ses décisions à Israël. Des choses que l'on connaît, des paroles qu'on a maintes fois entendues et lues, tout d'un coup, elles prennent vie. Tout d'un coup, elles s'éclairent. Tout d'un coup, elles nous rejoignent dans nos circonstances. C'est comme si on les lisait pour la première fois. C'est comme si Dieu levait le voile sur toute la profondeur, la richesse de la révélation biblique. Il est dit, cela, le Seigneur ne l'a pas fait pour les autres peuples. Ils ne connaissent pas ses décisions. Mais nous, nous sommes son peuple, peuple de Dieu. Il nous a donné son esprit pour comprendre ce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Et ce psaume termine par chanter la louange du Seigneur. Et le repas du Seigneur qu'on va prendre maintenant, c'est une déclaration d'espérance. Parce que Christ a tout accompli, l'histoire n'est pas finie.